Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hack & Speak. Alors aujourd'hui, avec cet épisode, on va revenir un petit peu aux sources de la création de ce podcast, puisqu'on va parler d'outils open source. Un outil open source qui, ma foi, est bien connu puisqu'il a déjà plus de 14 500 stars sur GitHub en l'espace de 2 ans. C'est quand même assez conséquent. Et cet outil, il est lié à Lozint. On avait déjà fait un épisode avec Palenat sur de Lozint qui était très intéressant. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous le créateur de plusieurs outils open source dont certains sont dédiés à Lozint et qui sont très utilisés dans la communauté. Donc c'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur d'accueillir Thomas. Merci d'avoir accepté cette modeste invitation dans ce podcast.
Ben, merci à toi, je suis très heureux d'être ici. Merci pour l'invitation.
Pour ceux qui ne savent pas, et d'ailleurs personne ne saura, j'avais déjà invité Thomas il y a 1 an, ou 2 ans même, à la sortie de Gent. Donc c'était son outil open source qu'il aura l'occasion de nous présenter durant ce podcast. Et il m'avait dit, en fait pas maintenant, on verra quand j'aurai fait la V2. Donc voilà, 2 ans plus tard, nous sommes arrivés à la V2. Elle est officiellement sortie depuis plusieurs mois. Et donc je me suis permis de le recontacter pour avoir ce podcast. La résilience, je ne lâcherai pas.
Pas mal bon.
Et du coup, comme à chaque podcast, est-ce que tu pourrais te présenter et aussi nous dire ce qui t'a fait tomber dans l'infosec, dans ce milieu informatique?
Ouais, bien sûr. Donc moi, c'est Thomas Herzog, 23 ans. Je suis pentester développeur à Lausanne, à CQLabs. Et puis, je développe aussi des outils open source dans mon temps libre. Et puis, dans mon autre temps libre que j'essaie de chercher, je bosse aussi à Lozint Industries, donc un service où vous pouvez faire de Lozint en ligne.
Dans ta 25e heure de la journée?
Exactement. je prends de mon temps de sommeil pour bosser dessus. Mais bon. Comment je suis tombé dedans? Alors en fait, depuis tout petit, j'étais intéressé. En fait, j'étais sur le PC du salon et puis je bidouillais un peu. Et puis, il y avait des jeux sous forme de CD, par exemple Madagascar, Nos voisins les hommes, etc. Il y avait une vérification CD quand on les mettait dans l'ordinateur. Et puis moi, j'avais envie de comprendre comment on pouvait outrepasser cette vérification CD quand j'étais tout petit. Mmh. Et du coup, je regardais des tutos sur YouTube. J'essayais de comprendre les jumps en ASM, je comprenais rien. Je me disais, putain, j'ai mis un jump à cette fonction, c'est censé passer, et puis ça marchait pas. Et je pense que j'étais toujours un peu baigné dedans. Mais en fait, je connaissais personne qui était dedans. Donc, je manquais un peu de repères. En fait, à mon âge en tout cas, quand tu veux aller dans la cybersécurité, tu manques un peu de ressources, je pense. Par exemple, tu cherches hacking ou Wi-Fi par pur hasard. Et puis, tu tombes sur des vidéos YouTube qui sont faites un peu à l'arrache, qui
disent «
Tiens, fais cette commande. » Exactement. À l'époque, c'était Backtrack.
Backtrack 5, là.
Il y avait Kali, mais les gens, ils disaient d'utiliser Backtrack. Je ne comprenais pas pourquoi.
Tu faisais StarTix et tout, la bonne époque.
Oui, exactement. Et donc, je me suis dit qu'en fait, pour aller dans la cybersécurité, il faut d'abord savoir développer. Et donc, j'ai choisi un langage qui était facile à apprendre. Je me suis dit, go apprendre Python sur Code Academy. Après, j'ai réussi à retrouver un moyen d'aller dans la cybersécurité. Et puis, c'est comme ça que je suis un peu allé dedans.
Tu as fait quelles études? Tu as fait le bac?
Alors, c'est ça, j'ai fait le bac parce que j'étais forcé par ma famille. Sinon, je n'aurais pas fait de bac.
Ah oui, ok.
Non, en fait, j'aime pas du tout les études, je suis plus dans les projets. En fait, je pense qu'on apprend beaucoup plus en pratiquant, en faisant des projets, et puis voilà, c'est un peu une mentalité, mais j'ai un peu du mal à être assis sur une chaise, à écouter, et puis j'ai même entendu des histoires que des personnes codaient sur papier. Ça m'a un peu traumatisé.
Je te confirme. J'ai fait du Lisp et de l'OCaml sur papier. Magnifique.
Ah, quel enfer. Est-ce que ça te sert aujourd'hui?
Ça ne me sert pas, mais niveau algorithmie, c'est plus l'effort intellectuel que la pratique. C'est vraiment l'effort intellectuel.
Ok, major. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai fait un lycée. J'ai fait le lycée, j'ai fait le système électronique et numérique. Tu vois, un bac pro. Après, j'ai tenté la piscine de 42 en 2018. Et puis j'ai super mal géré mon temps. C'était une piscine décloisonnée pour ceux qui savent. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de faire un jour un exercice. Vous pouvez faire le premier jour 2 exercices Et en fait, vous avez tous les exercices débloqués, c'est pas du tout cloisonné. Et je voulais faire tous les exercices à 100%, et en fait...
Ah, tu t'es vu trop beau, non?
Exactement, c'était une très mauvaise idée, il fallait juste avoir un certain pourcentage et puis tous les faire, enfin bref. Et après, j'ai fait une formation qui s'appelle The Hacking Project, et en fait, c'est une formation décentralisée, donc ça, c'était fin 2018. C'était à Strasbourg, moi, j'ai habité encore un peu plus dans la campagne, en Alsace. Et du coup, je suis allé à Strasbourg, j'ai pris un local, puis j'ai dormi avec des araignées dans une cave. J'ai rencontré des gens là-bas, une petite équipe. Du coup, la formation, il y avait une petite team à chaque grande ville. Et nous, on était cinq. On se voyait tous les jours dans un bar. On allait sur une table avec nos ordinateurs. Et puis, chaque jour, on avait des nouveaux exercices à faire. Par exemple, recoder la page de Google. Donc, juste le front,
Une
hein, pas le back,
formation
évidemment.
décentralisée. Je ne savais même pas que ça existait.
C'est ça. Alors, c'est plus un adjectif pour dire formation sans budget, mais il faut pas dire
Ah.
décentralisé, c'est mieux. C'était vachement intéressant. En fait, ça reprend un peu le système de 42 où t'as pas vraiment d'enseignants. En fait, tu as juste la documentation et puis ensuite, c'est les élèves entre eux qui se corrigent. C'était vachement cool. Ça durait 4 mois, si je me souviens bien.
Ok, donc tu as fait ta formation décentralisée et là tu as dit tu es auditeur. Comment ça s'est fait le pont entre j'ai fait une formation, j'ai appris à coder, j'ai fait du Rails, mais là il y a une petite case qui nous manque, c'est genre l'infosec, tu vois, la cyber.
Après ça, comme toujours, je crawl un peu Internet, je vais sur le site de Parrot par pur hasard. Je vois dans les sponsors qu'il y a le site Xbox. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vraiment via les sponsors de Parrot parce que je me baladais
Ah
par
bah
pur
comme quoi
hasard.
ça marche hein.
Je me dis, Xbox, je vais dessus et puis je comprends pas comment m'inscrire. Il faut apparemment hacker l'inscription. Je me dis, putain, en fait, c'est vraiment le site que j'attendais depuis que je suis né. Et puis, je hack l'inscription, je me crée un profil et puis là, je suis un peu solo, un peu perdu sur le site. Et puis je me dis bah comment on fait? Je vois qu'il y a une chatbox sur Xbox, donc en fait c'est un peu un chat général où tout le monde peut parler. Et je regarde un peu les gens qui pomment des box, etc. Et d'un coup je vois le nom de quelqu'un qui s'appelle Mathieu. Je me dis c'est quand même un nom assez français ça. Je vais à DM pour juste au moins avoir un compagnon sur la plateforme. Et puis on crée un serveur Discord et puis on se dit on va créer une team de français parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il n'y a aucun français sur le site. Il y a des gens qui viennent petit à petit dans l'équipe et puis après je me dis il me faudra un job de pentester parce que pentester ça a l'air quand même vachement cool. Mais on est en période de Covid, c'est ultra dur et en plus j'ai aucun diplôme, c'est vraiment la dèche.
Mais t'as un profil à Xbox.
C'est ça, j'ai. Et puis je me dis aussi, je peux commencer à remplir mon portfolio en faisant des projets open source. Donc ça, c'était vraiment la vraie raison au départ, c'était avoir un portfolio
Ok.
pour trouver un taf.
Est-ce que c'est. Alors, spoiler, ça marche d'avoir des projets open source pour avoir un job facilement ou pas?
Alors, ça dépend des boîtes. Si t'as quelqu'un qui est un peu plus dans le technique, ça va. Si tu as une grande boîte, je ne citerai pas de
Et
nom, qui.
ils vont même pas regarder. Ok, ça marche.
C'est ça en fait, tu as des RH qui vont faire contrôle F sur ton CV et puis qui vont dire non, il n'y a pas de master, au revoir. Donc c'était un peu dur.
Parfois, en fait, tu sais, j'avais vu un blog post là récemment où le gars il disait oui, maintenant, si t'as l'OSCP, c'est pas EY qui va t'appeler dans les 5 minutes qui suivent, ça n'existe plus, ça et tout. Mais j'ai envie de dire, mais mec, t'es pas obligé de viser EY, tu vois. Enfin, là, c'est un exemple, hein. C'est comme si tu
Oui.
OCD et tout, t'es pas forcément obligé de viser ces grosses sociétés. Tu peux viser des sociétés beaucoup plus modestes, mais qui t'apporteront parfois tout autant, en fait. Dans le monde du pentest, c'est surtout ça. D'ailleurs, plus la société est petite, plus tu vas être amené à faire un max d'audits, parce qu'il n'y a que toi qui es dispo. Et donc, tous les audits cool, eh ben, ils seront pour toi.
Ouais, je confirme, hein, étant dans une boîte où on a à peu près 5 pentesters maintenant, l'ambiance est cool en fait. T'es dans une petite équipe, tout le monde se connaît, il y a un partage de connaissances qui se passe facilement et puis c'est vraiment cool d'être une petite boîte.
Et une idée te vient, l'idée de créer Géant. Et maintenant, qu'est-ce que Géant?
Alors, Géant, en fait, c'est un outil open source en Python qui permet de. Alors, on peut rentrer une adresse email et récupérer des informations comme le nom, comme la localisation approximative, comme la photo de profil, la chaîne YouTube, et puis les services Google activés. Et au tout début de Giant, tu peux aussi récupérer les photos archivées des gens. En fait, j'ai l'impression qu'avant, tu pouvais utiliser Picasa, donc l'ancêtre de Google Photos. Tu avais tes photos dessus. Et puis une fois que Google a arrêté le support de Picasa, enfin ils ont arrêté le service, ils ont décidé d'archiver tout ça et de le mettre toutes les photos de tout le monde en public. En fait, ils pouvaient récupérer ça avec l'ID du compte Google, qui était récupérable à partir de l'adresse email.
C'était l'origine de GN, c'était ça ?
C'est ça. Et vraiment, les photos sur Picasa, et il y avait toujours les métadonnées dedans, donc tu pouvais toujours extraire en plus les devices des gens dans les métadonnées, juste à partir de l'adresse email, hein, toujours.
Ok, donc toi, le but du tout, c'était, je vais faire un outil qui va me permettre, en fonction d'une adresse Gmail, d'aller récupérer ces photos Picasa. C'était ça ?
C'est ça, et même pas juste une adresse Gmail, mais vraiment toute adresse email qui est connectée à un compte Google.
Et là, du coup, tu as dit ça, c'était avant, et maintenant, tu as fait la version V2, qui t'a pris je sais pas combien de temps. C'est quand même un outil 14 000 stars, etc. Donc je me doute qu'il est beaucoup utilisé dans le monde de l'OSINT. Je fais de l'OSINT. Pourquoi en fait j'utiliserais GENT en fait ?
Pour récupérer le nom de la personne, simplement, parce qu'il n'y a pas énormément d'outils qui permettent, enfin d'outils gratuits en tout cas, qui ne sont pas en ligne, qui te permettent de récupérer des noms associés à des comptes.
En fonction d'un mail, c'est ça ?
Exactement. En fait, pour être plus précis, il y a Google qui ont vraiment des centaines de milliers d'API et ils ont une API qui s'appelle la People API. Et donc, en fait, là, c'est là que tu peux entrer l'adresse email et puis récupérer ensuite le Gaia ID, donc qui est l'identifiant d'un compte Google. Et puis, toutes les infos qui sont liées, en fait, c'est vraiment, si tu veux, des métadonnées d'un compte Google.
Comment ça se passe, en fait ? Parce que je suppose qu'elles ne sont pas forcément atteignables de manière anonymisée. Tu vois, il faut forcément un token.
Alors, c'était compliqué. Au tout début, tu utilisais Selenium. Donc, en gros, c'est un navigateur automatisé qui faisait des requêtes pour extraire des tokens dans le browser et puis ensuite les donner à GENT pour qu'il puisse faire ses actions.
Ah, ensuite, d'accord.
C'est vraiment grave. C'est pour ça que je n'osais pas du tout participer à un podcast pour parler de GENT où il y a du Selenium ultra crade, vraiment.
Et si tu générais un token, l'enfer. Ouais, c'était vraiment... Ok.
Et en fait, la V2, ça a résolu un truc dans le sens où j'ai totalement viré Selenium. Donc maintenant, tu peux utiliser ça en tant que libéré Python. Il n'y a aucun browser qui se lance. Et ce que ça fait, c'est que j'ai développé une extension à part que tu peux mettre sur ton browser qui va lancer l'authentification comme si c'était un appareil Android. En fait, tu as vraiment ta fenêtre qui s'ouvre. Et c'est la même fenêtre qui s'ouvre quand tu configures un nouveau téléphone Android, quand tu connectes un compte Google dessus. Et puis, ça va récupérer un OAuth2 token. Et en fait, ce OAuth2 token, ensuite, il te sert à recevoir un master token. Et en fait, ce qui se passe sur un téléphone Android, quand tu connectes un compte Google, c'est que justement, ça va prendre ce master token, ça va le stocker. Et dès que tu vas vouloir utiliser, par exemple, Google Drive, Google Photos, ça va utiliser ce master token pour générer un token qui va durer, par exemple, une heure pour utiliser l'API de Google Photos, de Google Drive. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que le master token, je le garde dans GENT. Et puis, c'est lui qui est utilisé pour curer les API. Mais il y a un hic, c'est que la People API ne peut pas l'utiliser en OAuth2. Enfin, tu peux, mais il y a des restrictions, par exemple, le nom, etc. C'est un peu compliqué, je ne vais pas en parler ici. Mais People API, tu peux l'utiliser avec des cookies. Et en fait, les cookies, ils expiraient super rapidement. Il y avait plein de trucs que je comprenais rien avec, qui se passait avec les cookies. Plein de gens avaient des problèmes avec les cookies. Donc ça, c'était encore pendant la V2. Donc il y avait le cookie plus le master token. Et en fait, là, récemment, justement, j'ai sorti la V2.1 qui ne demande plus du tout de cookies. Ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va utiliser le master token pour générer des cookies. Et ça, en fait, c'est possible parce que récemment, il y avait des black hats qui ont abusé d'un endpoint. En fait, si tu veux, tu sais, il y a des stealers qui récupèrent des données d'un browser Chrome et dedans, ils peuvent avoir des tokens, etc. Et en fait, ils abusent d'un endpoint sur Google pour régénérer des cookies. Même si le mot de passe a été changé, tu peux générer des cookies avec ce token. Et du coup, ça a fait un peu la une sur The Hacker News, etc. Et j'ai un peu reproduit cet exploit.
Donc toi, avec Android, le token... Tu peux du coup avoir des cookies à la volée de manière autant que tu veux, c'est ça ?
Exactement.
Et donc tu as résolu ton problème.
C'est ça. En fait, de base, si tu veux, t'as Chrome sur ton PC qui va... si maintenant tu vas sur ton compte Google sur Chrome, mais qu'il y a un cookie qui est foiré ou qui est expiré, ça va utiliser cet endpoint pour justement demander des nouveaux cookies. Et en fait, sur Android, c'est quasiment pareil, sauf que bah, y a un autre endpoint que je peux abuser avec le master token que j'utilise déjà dans Giant. Donc en fait, j'avais juste adapté ça, et puis maintenant, Giant V2, il génère autant de cookies que tu veux à partir d'un master token. Et c'est hyper stable maintenant.
Ok, franchement, c'est très intéressant. Et d'où l'idée t'est venue? Parce que donc ça, c'est comme tu le dis, tu as dû chercher, tu as dû tryhard, tu as dû, du coup, sur les Android, je suppose que tu as branché un proxy pour voir les appels qui passaient, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Voilà, tu t'es bien chauffé, tu as mis le proxy, burp, dans l'Android. Il n'y avait pas du SSL pining, non? Tu l'as enlevé, peut-être, je ne sais pas.
Google, non, ça va. Puis si tu mets le certificat dans le magasin store du téléphone, okay. ça passe en général.
Ok. Donc tu t'es chauffé à reverse, enfin à reverse, entre guillemets, à intercepter, à comprendre ce qui se passait dans ton burp, etc. Franchement, super intéressant. En plus, tu as dû apprendre beaucoup de choses, soit dit en passant. Et qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à te dire bon, j'ai fait une V1, ok, c'est une petite version, ça a un peu marché et tout, et j'ai une idée, je vais me tryhard pour faire la V2. En fait, qu'est-ce qui t'a poussé à faire l'outil, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Quelle était ta motivation? Parce qu'au final, si c'était que pour toi, tu fais une version un peu dégueu scriptée, tu cherches le mail qui t'intéresse et puis basta, tu vois. Mais là, t'as poussé le truc pour que ce soit le plus transparent possible. Avec ce que tu viens de raconter, le master token, les cookies, etc. Vraiment pour que ce soit le plus transparent possible. Qu'est-ce qui te pousse en fait à continuer à le développer à fond?
Alors, il y avait deux raisons. La première, c'est que ça me gênait personnellement d'avoir un code sale qui était utilisé par... Il y avait 10 mystères sur GitHub et puis le code était à chier. Et ça me gênait d'avoir un code qui était vraiment sale comme ça. Et la deuxième raison, c'est que... Je parlais avec Palenas, à un moment, je sais pas, mini prise de tête, mais vraiment rien du tout, c'est gentil. Et on crachait un peu sur la qualité du code de l'un et l'autre. Je sais pas, ça nous est arrivé d'un coup. Et puis on disait, ouais, mais regarde et tout, ça c'est moche, etc. Et puis, mais gentil, hein, aucune bagarre. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, mec? Je vais refaire tout le code.
Ok, d'accord. C'est juste de l'ego. Il avait fait Olé, c'était lui, c'était pas les mails, c'était les numéros de téléphone, hein, si je me trompe pas.
Olé aussi, ouais, c'était lui. Et puis du coup, j'avais fait son logo et puis j'avais refait tout son code en async parce qu'avant, ça faisait tout en multithread et ça consommait masse de ressources.
Et donc là, le projet explose, 14 000. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès d'un projet, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais 14 000 stars, c'est juste énorme. C'est pour quelque chose d'aussi simple, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets, hein. Oui, je le prends pas mal.
Bien
mais,
sûr, je suis d'accord avec toi.
Est-ce que tu t'attendais à un tel retour de la communauté, parce qu'il y a eu des articles sur Reddit, j'ai vu un peu partout même, des tutos, des gens qui font des tutos et tout.
Oui, il y a plein de tutos YouTube, c'est vrai, c'est marrant.
Des tutos YouTube et tout pour devenir un hacker et tout. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Est-ce que c'est venu malgré toi? Est-ce que tu as poussé le tool dans des confs, des trucs comme ça? Comment ça s'est un peu mis la dynamique?
Pas du tout. Alors, pour partager un tool, en fait, ce que je fais, c'est juste, je fais un post sur Twitter, LinkedIn, et sur le Reddit NetSec. En fait, je fais juste ces trois. Et ensuite, je ne pousse pas dans des confs ou quoi, je ne fais pas de pub. C'est vraiment juste... Je mets un lien comme ça, juste au moins, la communauté sait que ça existe. Et puis, si jamais ça intéresse, les autres vont en parler. Et puis, voilà, comme ça, c'est connu. Mais non, forcément, je m'attendais pas. Je me suis levé un matin et puis, je vois sur mon téléphone, je vois plein de notifications. Je me dis, pourquoi il y a 60 stars? Et ensuite, pourquoi il y en a 600? Pourquoi il y en a 2000?
Ça résolvait un problème, à mon avis, qui était présent, c'est qu'il n'y avait pas d'équivalent, en fait. Je pense que vous étiez le premier à faire ça de manière industrielle, on va dire, entre guillemets, pour les auditeurs et auditrices. L'OSINT, hein, moi qui suis totalement externe à ça, j'ai l'impression que ces dernières années, c'est devenu très business. C'est devenu un business à part entière. Pourquoi? Parce qu'il y a des énormes besoins de plein d'entités, que ce soit même dans les forces de l'ordre, comme nous l'avait raconté Palenat, ou des sociétés privées, des investigations, même des détectives, ou même un usage juste personnel pour retrouver une personne, des choses comme ça. Et donc, bah, par exemple, il y a OSINT Industries, qui est un site qui permet, si j'ai bien compris, d'utiliser Giant, mais aussi plein d'autres softs, pour récupérer un maximum d'informations à partir d'un email ou d'un numéro de téléphone. Toi, tu fais un tool open source. Et finalement, ton tool, malgré le fait qu'il soit open source, que tout le monde peut l'utiliser, tu te dis, ce serait bien qu'ils soient intégrés à quelque chose de plus vaste, plus grand, qui a plus de modules, malgré le fait que ce soit un service payant.
En fait, Giant, comme dit, c'était déjà open source et puis c'est... Je pense que ça appartient à la communauté open source parce que voilà, il y a un peu tout le monde qui l'a adopté. C'est vraiment un des outils le plus utilisé dans la communauté aussi, je pense, avec Olé. Et puis je me suis dit, bah, en fait, ce que j'aime faire, c'est étudier le fonctionnement des sites et puis apprendre à, je sais pas, abuser des fonctionnalités, par exemple. Ça, vraiment, j'adore. Mais le problème, c'est que si tu fais deux tools comme Giant, mais pour d'autres applications, par exemple pour non, GitHub, ça va. Ça,
ouais, Twitter, c'est par exemple. Twitter, ça pourrait être.
Par exemple, pour Twitter, c'est ça. Eh ben, je pourrais, mais en fait, autant en profiter et puis commencer à faire un service payant qui ensuite peut me rapporter de l'argent et ensuite potentiellement, si à un moment c'est réussi, continuer à faire de l'open source. En fait, juste avoir les moyens de continuer à faire l'open source parce que l'open source, ça rapporte pas d'argent. Malheureusement, hein, il y a des sponsors, etc. Ça vient de plus en plus, c'est cool, mais t'en vis toujours pas.
Mmh. Et... Alors que c'est l'outil le plus utilisé. Ouais. Je vois bien de ce que tu parles. T'inquiète pas.
C'est vrai. Bah, jusqu'à il y a quelques mois, par exemple, c'était 10 à 15 balles par mois en GitHub sponsor. Et puis, je m'en plains pas. Hein. C'est vraiment cool. En fait, limite, cet argent-là, je le redistribue juste en faisant des dons à d'autres développeurs. En fait, c'est juste... Ça me fait plaisir. Juste, il y a des gens qui montrent leur intérêt pour l'outil. C'est plus ça que j'apprécie plutôt qu'avoir des moyens financiers. Après, s'ils sont plus gros, évidemment, c'est cool et puis je vais m'en servir. Mais voilà, je ne cherche pas non plus à me dire « s'il vous plaît, payez-moi » parce que mon but, c'est absolument de faire ça. Comment dire ? Donc, effectivement, il y a aussi une autre à côté qui est Closed Source. Et puis, je me dis, si on fait un tool comme Twitter et qu'on le met en open source, ça sera directement patché.
En fait. Okay, ouais.
Et Google, ils sont assez gentils.
Ouais, je suis d'accord. En gros, pour ceux qui veulent un bref résumé, ce dont parle Thomas, c'est s'il fait un outil qui va abuser, par exemple, de la fonctionnalité forgot ou reset password, reset email ou non reset password ou forgot email, et que suivant si l'email existe sur le site, ça va envoyer 403 ou 200. Bon, bref, on s'en fiche. S'il poste ça public et que la société se rend compte qu'il y a un tool public qui peut abuser de ses fonctionnalités, elle va être tentée de renvoyer tout le temps le même code de retour pour pas qu'on puisse savoir si le mail existe ou pas. Enfin, c'est ça, non ?
Exactement, voilà. C'est ça.
Alors qu'avec Giant, c'est des API publiques de Google. En fait, tu n'exploites pas des fonctionnalités, tu ne fais que query des API en fait, qui te retournent de la data. Et toi, ce que tu fais avec Giant, c'est que tu croises ces data pour en sortir de l'information en fait.
Exactement, c'est ça. C'est vraiment.
Donc c'est infixable.
C'est comme
en fait.
Sur Google Drive. Et puis, ouais, c'est ça. C'est vraiment la manière dont fonctionne Google. Alors que, voilà, au Sinistris, ça va être plus de l'abus. Parfois, il y a des choses qui sont peut-être pas censées retourner ce genre de données. Et puis, si on met ça sur GitHub, si on fait un tweet en mode regardez, il y a cette nouvelle technique qui vient de sortir, je partage à la communauté au Sint. Mais en fait, ça va encore moins profiter parce que ça sera patch et personne ne va profiter. Tu auras juste fait ton petit coup de pub et puis basta.
Ouais, je comprends bien cette philosophie. Et je comprends aussi pourquoi Giant, c'est pas un problème. C'est parce que tu abuses de choses qui sont documentées et qui fonctionnent comme elles doivent fonctionner.
Exactement.
Fait. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de le maintenir open source, puisque tu sais que ça va rester comme ça. Alors à moins d'un gros changement, normalement dans un an, ça fonctionne toujours, quoi. Et même, il y aura peut-être des nouvelles API, qui sait.
Ouais, c'est ça. Enfin, ouais, c'est ça. C'est à moitié des trucs publics, à moitié des trucs un peu non documentés. Mais ces trucs non documentés, c'est par exemple la manière dont fonctionne Google sur un téléphone Android. Donc,
oui,
ça sera pas patch d'ici plusieurs années. Ça, c'est tranquille.
Ah, ok, ça marche. Du coup, je vais rentrer peut-être dans un sujet un petit peu... peu controverse, un petit peu qui te serre le cœur, je ne sais pas, tu vas nous dire. Moi, ça me serrerait le cœur à ta place, donc voilà.
Je me demande.
Récemment, sur Twitter, j'ai vu que tu avais poussé un petit coup de gueule parce que tu t'es rendu compte que certaines personnes qui vendaient eux aussi un service, on va dire, similaire à ce que propose Ozint Industries, tu t'es rendu compte que ton outil Giant avait aussi été intégré à ces sites. Et que toi, finalement, créateur derrière, bah, tu n'as aucune rétribution. Alors, autant Ozint Industries, si j'ai bien compris, tu es derrière le projet, Donc, ça ne te dérange pas parce que finalement, tu te rétribues un petit peu comme ça, alors que sur les autres sites, bah, tu n'es pas du tout rétribué. Ma première question, c'est quel est ton sentiment quand tu vois ça? Et deuxième question, comment t'as su qu'ils utilisaient ton tool? C'est le moment anecdote. Clap, clap.
Alors en fait, mon sentiment, c'est que je le savais. Depuis la V2, en fait, depuis que j'ai facilité l'utilisation en tant que librairie, que c'est vraiment hyper facile de l'intégrer, j'ai bien précisé dans le README qu'il fallait l'utiliser dans des projets perso, open source. En fait, j'ai mis une licence hyper restrictive. Tu peux pas l'utiliser dans des projets commerciaux, à part, évidemment, vu que je suis l'auteur, je peux distribuer sous d'autres licences. Mais tel quel, tu peux pas. Et je savais que ça allait être intégré dans des services similaires parce que, bah, on va dire, je connais un peu le monde de l'entrepreneuriat et je sais que c'est pas forcément un milieu où tu as des gens qui sont toujours très très honnêtes. Et
Parce que le monde de l'usine, c'est un monde très concurrentiel, celui qui a le meilleur module, et c'est là où les gens
c'est
vont aller en
ça.
fait, donc.
Et puis, j'ai en fait le fonctionnement, c'est au fur et à mesure, c'est devenu quand même assez complexe maintenant si tu regardes le corps de Giant. Et si quelqu'un devait refaire tout le code pour interagir avec les services Google, ça prendrait un peu de temps. Il y a des services qui l'ont fait, que je félicite, mais évidemment, la plupart des sites, malheureusement, la majorité, ont utilisé Giant. Je les ai à peu près tous contactés. Et voilà. Je fais un peu au cas par cas, mais par exemple, un petit site, je vais pas pousser un coup de gueule, je vais juste leur envoyer un message, je vais dire, salut, j'ai vu que tu l'utilisais, est-ce que tu peux refaire ton propre module, s'il te plaît? Il y en a un site concurrent qui a fait ça. Bon, du coup, il m'a pas donné d'argent, mais il était assez petit. Et puis voilà, je lui ai dit, bah, tu vas là, si tu peux refaire le module et tout, c'est cool, je peux même t'aider à refaire ton module. Je veux dire, pas donner du code, mais je peux dire littéralement toutes les étapes. En fait, je vois bien que ça prend plusieurs semaines à refaire et qu'en fait, c'est quand même pas une tâche si simple de refaire Giant. Donc voilà, mais effectivement, j'ai vu qu'il y avait un certain site qui l'utilisait et voilà, je me suis permis de pousser un coup de gueule sur Twitter, étant donné que cette personne a quand même pas mal passe quand même beaucoup de temps à tweeter et puis à nous harceler indirectement sur son Twitter aussi. Donc voilà, je me suis permis de pousser un coup de gueule sur Twitter.
Et
C'est.
ma question c'est, comment tu as repéré que quelqu'un utilisait ton outil à travers un service payant?
Alors. Dès la V2, en fait, j'ai introduit une fonction inutile. Mais qui paraît utile? En fait, quand tu regardes le code d'un projet open source, forcément, tu vas pas comprendre chaque caractère du projet au premier coup d'œil. En fait, j'ai demandé à des gens comme. Enfin, je vais pas citer de nom, mais des gens qui sont quand même pas mal doués en Python à prouver cette fonction inutile. Ils ont pas trouvé, donc je suis assez content de cette fonction. Malheureusement, bien sûr, je vais pas donner le nom ici, mais.
Ne dévoile pas tous tes secrets, nous on veut juste le qu'est-ce qui s'est passé en gros, hein, pour que tu
Bien
détectes.
ça. Donc en fait, voilà, c'est un watermark. Donc en fait, selon des prérequis dans les données, ça va un tout petit peu altérer, mais vraiment un tout petit peu altérer la réponse dans les résultats. Donc en fait, à partir de ça, je peux demander l'adresse email sur n'importe quel service et puis. Vu que je manipule les données que ça va retourner. Parce que voilà, c'est moi qui ai fait mon compte Google, je peux choisir les infos que je mets dedans, etc. Ça va altérer les résultats et puis je saurai que cette personne utilise Giant. À quoi, c'est sûr.
Donc quand tu vas sur le site de un site qui fait aussi des services d'OSINT en mode SaaS, tu rentres un mail et en fait tu regardes les retours et là tu te rends compte que il y a un
Oui.
retour qui est passé par ta fonction et donc s'il est passé par là, c'est que c'est ton tool en fait, tout simplement.
Oui, instantanément.
Et en fait, c'est à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, mais c'est peut-être tu t'es inspiré de ça, mais moi ça me fait trop penser à RapGenius vs Google,
Je sais de quoi. Oui, exactement. J'ai pensé à ça.
parce que pour auditrice auditeur, RapGenius c'est un site qui référence les paroles de musique. Et le problème c'est qu'il y a Google qui a un service concurrent et RapGenius accusait Google de copier en fait toutes les traductions de paroles que eux ils avaient fait et les mettre sur leur site. Et donc pour prouver le fait qu'ils aient copié, ils ont en fait introduit des accents ou littéralement des fautes dans les paroles pour voir si Google ferait exactement les mêmes fautes ou les mêmes accents qui n'avaient pas lieu d'être, ou les mêmes caractères spéciaux, des caractères Unicode, des trucs qui vraiment n'auraient pas dû être là. Et effectivement, Google avait tout copié. Et donc, ouais. Ils ont pu prouver que, en fait, Google se servait simplement à aller sur leur site, scraper toutes les données et proposer un service similaire en copiant littéralement tout le travail de Rap Genius.
Et ce qui est extrêmement triste, c'est qu'il me semble que Genius a perdu le procès.
Ils ont perdu le procès, ouais. Bah, peut-être qu'ils n'avaient pas des bons avocats. N'empêche que la copie était là.
Ouais. Ouais.
La copie était... Mais je pense qu'ils ont perdu sur le fait qu'ils n'ont pas forcément prouvé que ça avait fait du dommage à leur site. Tu vois ce que je veux dire, enfin, peut-être quelque chose comme ça. Tu vois. Parce que le site fonctionne toujours, ils ne sont pas à la porte. Et je crois que Google a déjà abandonné leur bordel, hein, je crois. Parce qu'eux, ils lancent un truc, deux ans après, ils l'ont abandonné. Donc...
ouais.
RIP, c'était comment ça s'appelait ? Google Plus. Ouais, c'était ça. Je ne sais pas si tu as connu cette époque.
Ah oui. Oui, oui, bah, c'est grâce à ça que la People API existe de base.
Et voilà. Et donc, ok. Et donc, tu avais pensé à faire un watermark très malin dès la sortie de la V2, caché dedans le code qui est open source, donc finalement que tout le monde pourrait trouver, mais personne ne se donne la peine de le faire. Et tu as pu repérer que des gens qui vendaient un service SaaS utilisaient ton propre outil en breakant la licence qui normalement devrait demander à ce que l'outil que eux aussi ils ont fait du coup soit open source. C'est ça, j'ai pas tout compris la licence, mais...
C'est ça, c'est une licence hyper restrictive qui s'appelle AGPL3. Et c'est le projet dans lequel tu utilises Giant, du coup, va être obligé d'avoir la même licence ou d'être en open source, hein, quelque chose comme ça. Et puis, ça ne peut pas être un service payant en ligne, ça ne peut pas être closed source, en fait, c'est vraiment open source.
Ah là là, damn. Et du coup, quel est l'aboutissant de ce coup de gueule ? Est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Est-ce qu'il ne va pas se passer quelque chose ? Qu'est-ce que tu peux faire, en fait ? Et puis, ma question, qu'est-ce qu'on peut faire face à l'utilisation d'outils open source ? Malgré qu'on sait que ça a été fait, que c'est en train d'être fait, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait ?
Alors, juste petite parenthèse pour les auditeurs qui sont curieux. Si jamais vous trouvez la fonction, envoyez-moi un DM sur Twitter ou sur Discord. Contactez-moi si vous trouvez une manière de me contacter. Et puis, je serai content. Voilà. Comme ça, je saurai que quelqu'un l'a trouvé.
Je mettrai ton Twitter dans la description du podcast.
Donc, quels sont les aboutissants ? Ben, en fait, en tant que développeur open source, ben, pas grand-chose. En fait, j'ai pas beaucoup de contacts avec des avocats ou quoi. Après, si vraiment je sens qu'il y a moyen, si vraiment j'ai la volonté, je pense que j'ai les contacts pour trouver des avocats, mais c'est mieux de régler ça à l'amiable en fait, et que juste la personne soit consciente que ce qu'elle fait, c'est pas forcément ouf pour la communauté open source et la communauté OSINT. Et j'espère juste que ça va se régler normalement sans faire de démarche. C'est ce que j'espère.
Moi, je ne suis pas médiateur, mais j'ai proposé une solution. Hein,
C'était quoi la solution déjà ?
Utiliser ton GitHub sponsor pour te rétribuer un petit peu à la hauteur de comment utilisé sur le site concurrent. Alors, moi, c'est ma... Voilà, après...
Ouais, je doute qu'il va me donner de l'argent. Mais effectivement, c'est une solution.
D'ailleurs, j'ai vu que on peut switcher aussi. Alors, j'ai pas compris l'intérêt, mais donc ça, je sais pas si ça a un lien avec l'osine pure, mais tu as créé aussi un projet qui s'appelle Git5, mais qui lui, il est dédié à GitHub. Alors, je sais pas si c'est ton amour fou pour GitHub, il est dédié pour scraper les informations des utilisateurs GitHub, mais j'ai pas bien compris le pourquoi tu as fait ça. En fait, où était le need pour que tu te dises, il me faut un outil qui fasse ça.
Alors, en fait, déjà, il faut savoir que le projet, avant que je sorte, ça faisait 2 ans que je bossais dessus, parce que je partais d'un constat simple, c'est que GitHub, en fait, la source d'information, elle est gigantesque. On ne se rend pas compte de... Alors, je peux entrer un peu dans les détails, mais du coup, il y a GitHub qui est une plateforme pour gérer des repos, et puis il y a Git, le client, mais sauf que il faut que les deux interagissent ensemble. Donc, Git, en fait, tu peux travailler sans GitHub, hein. Tu peux, voilà, il y a des utilisateurs sur ton réseau local, par exemple, qui peuvent faire des commits et puis les pousser, etc. Et puis, du coup, t'as des commits qui sont faits par différentes personnes et qui sont... ces commits, ils sont identifiés avec une adresse email et puis un nom. Et tous ces commits, ensuite, ils se retrouvent sur GitHub. Et GitHub, quand tu vas dans les commits, ils ont besoin de... de comprendre c'est qui est la personne qui a fait ce commit. En fait, ils vont prendre l'adresse email GitHub et puis ils vont regarder si c'est un compte GitHub qui est associé. Et donc, ils vont afficher le nom de la personne sur GitHub avec la photo.
Mais c'est pour ça que si tu mets dans ton commit un mail qui est d'un autre mec, c'est lui qui va apparaître sur GitHub comme s'il avait fait le commit, c'est ça, non?
Exactement. Ouais. Et donc, ça, l'outil part de cette mécanique-là. Mais ensuite, il y a eu pas mal d'autres mécaniques, par exemple. Qu'est-ce que je peux expliquer sans que ce soit trop complexe?
Ma question, c'est quel est le use case? En fait, quel est vraiment un use case réel? Tu veux savoir de l'info sur quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux chercher, en fait?
C'est ça, donc t'as un compte GitHub, donc tu t'interroges, et puis tu mets le pseudo sur GitHub, puis ça va essayer de te ressortir les amis proches, ça va ressortir l'historique de pseudo, ça va ressortir les différents noms qui sont utilisés, les différentes adresses email qui sont associées, et puis les différents noms de domaine utilisés aussi.
Mmh. Les gistes, peut-être
Pardon?
Les gistes, je sais pas si...
Ouais, ça va aussi extraire les gistes ou gistes.
Gist, ouais.
C'est même des vagues pour les gifs, mais...
Dedans, il y a des dingueries, des fois. Je pense que l'usage est quand même très particulier, tu vois, par rapport au cas d'utilisation, oui. Par rapport à un géant. Là, ce serait vraiment des mecs actifs sur GitHub, et tu veux... Ils ont fait peut-être des commits, tu sais, genre un commit malicieux, ou je sais pas, quelque chose comme ça, enfin une paire malicieuse, tu veux retrouver un peu qui sont ces gens, d'où ils viennent, tu vois.
Bah en fait, il y a quelque chose d'intéressant pour le site, c'est que déjà, tu peux trouver donc un compte GitHub à partir d'une adresse email, et quand tu pars d'une adresse email et que le mec a un compte GitHub, tu peux lancer GitHub dessus et puis pivoter sur plein d'autres adresses email, de noms différents, de
usernames différents. Ah oui, avec ses autres commits. Ouais. Ah oui,
exactement.
Avec d'autres commits qu'il aurait fait avec d'autres adresses mail, et un jour il s'est planté, il a utilisé l'adresse mail. Et...
Ouais, c'est ça.
Oh, d'accord, ok, j'ai compris. Ouais,
Et ça va même essayer de trouver des adresses email dont le nom correspond à peu près au nom principal. En fait, ça va utiliser l'algo de Levenstein pour calculer la distance entre deux textes pour lier absolument toutes les informations possibles sur le mec. Puis voilà.
Ok, c'est intéressant. Ouais, tu te fais plaisir en fait.
Ouais, c'est ça. Je me fais juste plaisir, c'est tout.
Ok. Mais écoute, c'est un épisode très intéressant de l'outil open source. Une petite anecdote qui nous a fait plaisir. Ça fait plaisir pour les statistiques du podcast. Merci beaucoup.
Ouais, avec plaisir. Ça fait plaisir.
Ouais, on apprécie. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin ou peut-être nous dire si tu as des projets futurs qui devraient arriver ou des choses comme ça? Si tu as envie.
Projet futur, non, ça va surtout arriver avec Austin Industries, développer plein de fonctionnalités. Et puis, j'avais bien envie de faire une V3 avec tout ce qui est Firebase pour faire du pentest Firebase. Mais on verra ce que le futur en dit. Mm. Et puis, surtout, mot de la fin, j'aimerais remercier à fond la team AidenSec, qui est, je considère comme ma deuxième famille avec tous les gens dedans. Merci à tous. Et puis, merci aussi à Shusaku qui m'a payé l'OSCP parce que j'avais pas de thunes. Et que j'ai remboursé après.
Ah.
C'est un mec en or.
Ah bah merci.
Il y a plein
lui.
De mecs en or comme ça qu'il faut remercier.
Ouais. Bah merci à lui parce que c'est quand même pas donné hein, le SCP. Hein. C'est 750 balles,
oui, 800 1000 balles. C'est...
1000 balles. 1000 balles.
C'est,
ah oui.
C'était 1000 balles. J'étais un enfant dans ma chambre qui était de Xbox. Il m'a prêté 1000 balles pour le SCP et la promesse était que je rembourse à mon premier salaire. Et c'est ce qui a été fait. Genre plusieurs années après. C'est assez fou.
Bonhomme. Comment tu as dit qu'il s'appelait?
Vrai bonhomme. Shusaku.
Eh ben, bonhomme, Shusaku. Big up, comme on dit.
Big up, tarte aux fraises aussi.
Ah non, ça par contre, je couperai au montage.
Ok, ça marche.
Allez, merci beaucoup pour avoir donné ta voix à cet épisode du podcast Hack and Speak.
Ouais. Ça faisait, merci à toi.
2 ans que je voulais t'interviewer, il a fallu attendre, on a été patient, mais on a cet épisode et ça me fait plaisir de retourner un petit peu sur de l'open source. Ça faisait plusieurs épisodes que je m'en étais éloigné. Plein de succès pour G-Hunt encore. Et
plein de succès pour NetExec, le fork hostile.
merci beaucoup. Quant à moi, chers auditrices et auditeurs, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée ou très bonne journée suivant quand vous écoutez cet épisode. J'espère qu'il vous plaira. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut tout le monde. You know, man.